Exil en Allemagne pour Angela Merkel.
Oui, à 13 mois des élections législatives, plusieurs dossiers explosifs attendent la chancelière dont le leadership va être mis à l'épreuve. Sur le plan international, les tensions croissantes entre la Turquie et l'Union européenne fragilisent l'accord, jugulant le flot des demandeurs d'asile issus pour la plupart de Syrie. La crise migratoire figure donc en première place dans les urgences d'Angela Merkel. Peut-être en discutera-t-elle directement avec le président Erdogan en marge du G20. Ce sera le 4 septembre en Chine. Tensions extrêmes également sur le plan intérieur avec la question de la sécurité. Devenu prioritaire depuis les attentats islamistes de cet été, notamment les attaques revendiquées par Daesh à Würzburg ou Ansbach en Bavière. Les récentes mesures annoncées par le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, sont critiquées, y compris par les durs de la CDU. Alors que ce profil précise La Croix, deux scrutins régionaux clés le mois prochain, dont l'un en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, c'est-à-dire le fief d'Angela Merkel. Beaucoup craignent que les électeurs les plus à droite ne portent leur vote sur le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne. Angela Merkel qui devrait retrouver d'ailleurs la semaine prochaine François Hollande en Italie avec Matteo Renzi pour un sommet post-Brexit. François Hollande qui est attendu, Benoît, aujourd'hui au Vatican.
Oui, pour 2017, le temps prêche, s'amuse le canard enchaîné ce matin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que si elle est privée, cette visite du président de la République au pape François tout à l'heure au Vatican ne passe pas inaperçue dans la presse du jour. Hollande en quête de rédemption, titre ainsi l'Opinion, pour qui cette visite planifiée à la suite de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray relève tout à la fois de la calinothérapie et de la stratégie électorale. La lutte contre le terrorisme permet au chef de l'État de tenter de se racheter une conduite aux yeux des catholiques français qui le boudent dans les urnes. Ceci dit, François Hollande rappelle l'Opinion avait été très marqué par l'appel du pape au lendemain de l'assassinat du père Jacques Hamel. « Je suis proche de vous comme je suis proche d'un frère », lui avait soufflé le souverain pontife. Et malgré les contentieux récents entre les catholiques et l'exécutif français, le mariage pour tous, l'affaire Barbarin, la nomination de l'ambassadeur français au Vatican, le président de la République semble désormais plus attentif aux blessures des catholiques, écrit l'Opinion. Le Figaro lui aussi met l'accent sur le caractère très particulier de cette visite en donnant deux clés politiques pour mieux la comprendre. Le fait que le pape ait accordé une telle visite à Nicolas Sarkozy en mars 2016 et le fait que le pape ait appelé Christian Estrosi après le carnage niçois du 14 juillet, le président de la région PACA l'ayant largement fait savoir. Oui donc, oui, on soupçonnera François Hollande de chercher à gagner des voix pour les scrutins futurs, résume Guillaume Goubert dans son éditorial en une de La Croix. Mais l'heure n'est pas à cela, poursuit-il, un brin miséricordieux. Deux hommes en rendez-vous au Vatican, ce qu'ils ont à se dire leur appartient. Bonjour Jean Garrigue.
Bonjour.
Professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Orléans. Il est des périodes où la France semble avoir plus de mal à être la fille aînée de l'Église catholique, comme le rappelle le Figaro ce matin.
C'est sûr qu'il y a un terrain électoral à reconquérir pour François Hollande, notamment depuis la question du mariage pour tous, qui avait quand même effarouché une grande partie des catholiques français, pratiquants ou sympathisants. Mais il y a aussi d'abord une tradition de visite des chefs d'État français au pape. C'est même la grande tradition de la diplomatie française.
Même et si François Hollande n'est pas chanoine
du Latran comme, voilà, contrairement
aux autres
prédécesseurs. Et n'a jamais mis l'accent sur le rôle central du religieux dans la société, comme certains de ses prédécesseurs, et notamment Nicolas Sarkozy, y avait beaucoup insisté. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, d'ailleurs, c'était au moment de Saint-Étienne-du-Rouvray, la manière dont Nicolas Sarkozy avait considéré que tuer un prêtre, c'était tuer l'âme de la France. Et une telle déclaration, pour une conception qu'on peut avoir de la laïcité française, me semble un peu un porte-à-faux et de nature assez provocatrice par rapport à la réalité de ce qu'est aujourd'hui la citoyenneté républicaine. Mais pour revenir à François Hollande, il est nécessaire aussi, dans un moment comme celui-là, de s'adresser aux catholiques, d'éviter précisément ce qui à un moment était la tentation justement dans les réactions d'après Saint-Étienne-du-Rouvray, une sorte de nouvelle guerre communautaire ou des communautarismes. Donc je pense que
c'est un geste positif et habile. Néanmoins, on sent toujours que l'État est toujours maladroit à saisir du fait religieux en France. Vous rappeliez les attitudes de la droite, celles de la gauche.
Alors là, c'est une vieille histoire, mais les républicains de la Troisième République, ils ont eu déjà à gérer ce qu'était le rôle d'une religion et d'une église ô combien importante. Et on retrouve un parfum de ces combats du début du XXe siècle. On les retrouve aujourd'hui, évidemment, confrontés à une autre religion.
Nous restons dans le même registre. Pourquoi il faut entendre les élites musulmanes de France? 4 pages à lire dans Le Monde. Nous en avons parlé d'ailleurs dans nos journaux sur France Culture. 41 médecins, chefs d'entreprise, ingénieurs, universitaires, avocats, cadres supérieurs, français et musulmans au curriculum vitae brillant se sont déclarés prêts à assumer leurs responsabilités dans la gestion de l'islam dans une tribune qui avait été publiée à l'origine par le Journal du Dimanche le 31 juillet. Après l'assassinat du prêtre catholique Jacques Hamel, une évidence est imposée à eux. Le silence n'est plus une option. Il était donc devenu urgent que leur génération prenne en main l'organisation de l'islam en France, cet islam dont ils ont hérité la culture. Et eux, pratiquants ou non, qui ont intégré l'élite de leur domaine professionnel et possèdent des codes de la République, ont ressenti le devoir donc de s'impliquer dans cette entreprise. Il faut permettre à cette religion d'exister dans la République, tout en ne laissant pas les religieux seuls maîtres du jeu. Le nom de Jean-Pierre Chevènement, évoqué récemment par François Hollande pour prendre la tête de la Fondation pour l'Islam de France, a fortement choqué dans ce contexte. Il en est question également dans ses articles. Ça fait un peu bureau des affaires indiennes. Voilà ce qu'estime Majid Siosin, qui est médecin et qui fait partie de ces Français musulmans pratiquants ou pas, qui prennent la parole dans les colonnes du Monde. Alors, Jean Garrigue, ce nom de Jean-Pierre Chevènement, est-ce qu'il ne constitue pas une grosse maladresse de la part du président de la République?
On comprend là encore que, étant donné ce qu'ont été le parcours et les prises de position de Jean-Pierre Chevènement, identifié à une certaine absolutisme laïque, on comprend que certains musulmans de France aient pu être choqués. Et je trouve très important que précisément c'est les musulmans dont vous parlez, c'est on parlait d'élite musulmane, ou en tout cas de responsables ou de personnalités musulmanes, prennent en charge justement cette parole et à l'écart justement du religieux. Et ce qui permet justement de valider, de légitimer leur prise de position dans le cadre précisément scrupuleux de la laïcité républicaine. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de Jean-Pierre Chevènement pour incarner cette légitimité républicaine.
Le sociologue Michel Vievorka propose une tribune dans Libération ce matin dans laquelle il pose la question d'un retour de la guerre des deux Frances. Ça va beaucoup vous intéresser ça, Jean Garrigue. Michel Vievorka rappelle cet épisode de l'histoire de notre pays à la toute fin du 19e siècle, cette polarisation des débats et même ce conflit qui opposait républicains laïcs et droite chrétienne en se superposant en grande partie aux affrontements de l'affaire Dreyfus. Sans comparer les deux époques, Michel Vievorka appelle à réfléchir à la situation présente en gardant l'histoire en tête. Aujourd'hui, d'une part, en effet, la France semble disposée à se diviser entre tenants d'une ligne sécuritaire, généralement sensible aux discours de l'extrême droite et de la droite dure, et démocrate, résistant à tout ce qui pourrait se révéler liberticide et marquant leur attachement aux droits et aux lois. Du coup, pour le sociologue, se pose la question de l'intervention dans le débat public des musulmans. Les uns en faveur d'une prise de parole considèrent qu'un islam fort, structuré, mobilisé est le meilleur antidote à l'islamisme radical, et les autres considèrent qu'il n'est pas possible de séparer entièrement islamisme et islam, que plus l'islam acquiert visibilité et fait preuve de dynamisme, plus il constitue un péril pour la France, ses valeurs nationales, laïques, républicaines et sa sécurité aussi. Reste à espérer que ces débats se régleront, conclut Michel Vievorka, comme la première guerre des deux France, du côté de la tolérance et de l'ouverture d'esprit, Jean Garrigue.
Oui, il faudrait trouver un Aristide brillant pour arriver à concevoir un texte. Alors maintenant, on n'en est pas là, mais aussi intelligent et aussi fort que la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, qui est un grand texte républicain et de tolérance. Mais pour revenir à la guerre des deux Frances, on peut suivre Michel Vievorka, sauf que aujourd'hui les cartes sont un tout petit peu brouillées, parce que les valeurs qui étaient celles précisément des républicains laïcs, voire anticléricaux, qui s'opposaient justement à ce qu'avait été le rôle de l'Église dans la société française au XIXe siècle, et qui était une institution profondément anti-républicaine, eh bien ce discours-là, on le retrouve aujourd'hui. dans la droite et parfois même dans l'extrême droite, puisque l'extrême droite française se revendique de cet héritage laïque, avec là aussi toutes les précautions qu'il faudrait prendre par rapport à ces revendications-là. N'empêche que le discours, il est à front renversé aujourd'hui. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que vous avez la revendication de cette identité républicaine, elle se fait dans une partie de la droite et de l'extrême droite. J'allais dire, peut-être plus d'ailleurs au Front National, en tout cas autour de Florian Philippot, de Marine Le Pen, que du côté de Nicolas Sarkozy ou de Christian Estrosi, qui à plusieurs reprises ont mis l'accent sur l'identité religieuse de la France. Et ça, c'est très intéressant aussi.